Il est 16h sur Radio Campus Tours 99.5 et vous écoutez l'émission Sortez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par Jean-François Boucher, scénographe floral meilleur ouvrier de France de Chenonceau. Bonjour.
Bonjour Lola.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours ?
Alors, donc Jean-François Boucher, je suis scénographe floral du château de Chenonceau. Je fleuris toutes les salles du château avec mon équipe, parce que c'est une des spécificités de Chenonceau. Et mon parcours est très simple, c'est la voie de l'apprentissage pour le métier de fleuriste. Et en parallèle, j'ai fait des concours nationaux et internationaux et j'ai été élu meilleur ouvrier de France en 2000.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie être scénographe floral meilleur ouvrier de France au sein du monument du château de Chenonceau ?
Alors, le titre de meilleur ouvrier de France, il est décerné pour être, enfin, dans le cadre de la meilleur ouvrier de France fleuriste. Donc, c'est mon métier initial. Je l'ai pratiqué pendant plusieurs années à Saint-Avertin. Et après, au sein du château de Chenonceau, c'est un petit peu différent parce que on dit scénographe parce qu'il y a une mise en scène de nos fleurs, puisque Chenonceau est un château qui est chargé d'histoire, qui est surtout très meublé. Et en fait, quand on met nos compositions à l'intérieur du monument, il est important de bien intégrer ce décorum existant. Donc nous, on est une partie de décor dans une atmosphère existante, donc il faut bien que ça colle. Donc, en fait, c'est juste ça, la petite subtilité.
Vous m'accueillez aujourd'hui dans l'atelier floral. Combien de personnes travaillent avec vous à la création des bouquets toute l'année ?
Alors, nous sommes une toute petite équipe. J'ai mon bras droit, Aurélie. Et nous avons également tous les deux ans un ou une alternante. Et là, actuellement, c'est Jeanne qui est en train de faire un sapin, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une toute petite structure, toute petite équipe.
Et quelles fleurs peut-on retrouver dans les pièces du château en ce moment ?
Alors, en ce moment, parce que j'essaie de travailler un maximum les fleurs de saison, nous avons beaucoup d'amaryllis, de jacinthe, également des narcisses. On oublie souvent, parce qu'on en a toutes les sauces toute l'année, mais l'orchidée, c'est une fleur d'hiver. Donc, on a pas mal d'orchidées aussi. Donc, on tourne autour de ces fleurs-là avec une majorité de fleurs blanches, puisque cette année, notre thème, c'est Grand Nord. Donc, on a travaillé beaucoup une déclinaison de ton très très clair.
Merci beaucoup. Alors, le château est l'un des monuments les plus visités de France. Qu'est-ce que cela change dans votre manière de concevoir les compositions qui doivent rester fraîches et spectaculaires ?
Alors, c'est pas pour moi quelque chose d'important, puisque qu'il y ait 3 personnes ou 500 ou 5000 à la journée, l'important c'est de faire bien son travail tout le temps. Donc pour moi, ça c'est pas un facteur très important. Mais par contre, c'est vrai qu'avec mon équipe, tous les matins, on va vérifier la fraîcheur, on change ce que l'on doit changer, et c'est vrai que on travaille avec du vivant. Donc tout le temps, on doit être vigilant, parce que même une fleur qui est achetée fraîche, elle peut subir les aléas du climat. Donc, il faut être très, très vigilant tout le temps.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des petits tips sans divulguer vos secrets pour garder les fleurs fraîches ?
Alors, au contraire, il faut les divulguer. Ce sont pas des secrets.
Allez-y.
Mais déjà, quand vous recevez un bouquet de fleurs, c'est très important de bien recouper l'extrémité des tiges, parce que le temps de transport, le temps de trajet entre chez le fleuriste et l'arrivée à la destination, les ports d'absorption ça sèche très vite. Donc c'est très important de recouper sur 1 cm. Ce qui est bien, c'est une paire de ciseaux très tranchantes ou un couteau, enfin, ou un sécateur, mais le mieux c'est de couper en biseau avec une serpette ou un couteau, mais là c'est un peu plus délicat. Donc déjà rafraîchir la coupe. Et ce qu'il faut aussi, c'est mettre de l'eau fraîche. Et une chose importante, c'est de bien les sortir la nuit dans un environnement frais, alors dehors s'il ne fait pas trop froid bien sûr, ou trop chaud, mais la nuit en fait les fleurs, elles sont comme nous, elles se ressourcent, donc l'obscurité et la fraîcheur font qu'elles vont bien tenir la journée. Donc c'est un petit détail important à suivre.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le château de Chenonceau et ses particularités? En quoi est-il unique?
Alors, il est unique déjà par son architecture. C'est le seul château au monde qui enjambe une rivière. Et après, dans ses spécificités, moi j'ai parlé plus de ma partie parce que c'est rare d'avoir un château qui est fleuri toute l'année, déjà qui est ouvert toute l'année et fleuri toute l'année. On change toutes les semaines nos végétaux, nos compositions, nos formes. Donc le visiteur ne verrait pas la même chose d'une semaine à l'autre. Et ça, c'est une vraie particularité aussi d'avoir des salariés qui sont à l'intérieur d'une structure comme celle-ci. Parce que parfois, d'autres châteaux font appel à des prestataires extérieurs. Mais là, l'avantage d'être sur place, c'est qu'on a la chance de bien connaître toutes les pièces et du coup, de bien faire notre métier parce que de bien être intégré à chaque pièce.
Alors avant de passer à la partie pure et dure de Noël au pays des châteaux, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Étienne Chambaud, guide conférencier du château de Chenonceau. Il travaille également sur la partie événementielle. Alors monsieur Chambaud, est-ce qu'il serait possible de nous faire une frise chronologique simplifiée de l'histoire du château de Chenonceau?
Alors simplifier, c'est jamais simple.
Alors sans simplifier, c'est pas grave.
C'est un lieu avec beaucoup d'histoire. Non, mais rapidement, on parle à Chenonceau de château des dames, tout simplement parce que les femmes qui ont bâti cet édifice que l'on peut voir aujourd'hui, les personnes qui ont bâti cet édifice sont des femmes et elles ont aussi marqué un peu l'histoire de leur empreinte d'une certaine manière. Alors, à Chenonceau, il faut savoir qu'avant le château actuel, on a eu deux édifices fortifiés. Et le premier du 13e a été détruit pendant la guerre de Cent Ans. Le deuxième a été bâti pendant le 15e siècle. En fait, à partir de la fin du 15e siècle, un noble qui s'appelle Thomas Boyer, qui est surintendant des finances, notamment pour le duché de Milan en Italie, va s'intéresser au domaine. Et donc, ce Thomas Boyer, il vient pas tout seul, il est accompagné de son épouse, Catherine Brissonnet, qui est notre première dame de Chenonceau. Alors, le couple ensemble, après acquisition du domaine en 1512, va décider de la construction d'un bâtiment plus dans l'air de leur temps, on va dire ça, comme ça. Mais voilà, quelque chose de nouveau en termes d'architecture, d'italianisant. On décide de raser le château fortifié, le moulin qui est attenant au château, on va le faire détruire aussi, mais on conserve les fondations, tout simplement, parce que l'idée, ça va être de construire directement sur l'eau. Alors, Catherine Brissonnet, première dame de Chenonceau, parce que c'est elle qui supervise la majeure partie des travaux du nouveau projet. Château qui, au départ, n'a pas de pont pour le relier à la rive sud, ni de galerie. Il faudra attendre la suite pour voir arriver ces nouvelles constructions. Effectivement, Thomas Boyer va perdre le château au profit du roi François Ier. François Ier ne fait pas grand-chose de Chenonceau. On attend 12 ans pour voir les choses changer, parce que François Ier va malheureusement mourir. C'est son fils Henri II qui reprend la couronne, et Henri II va donner, entre guillemets, hein, mais va donner le château à sa favorite par le biais du domaine royal. Elle n'en est pas propriétaire à 100%, parce que si le roi venait à mourir, elle perdrait le château, pardon. Mais Diane de Poitiers récupère le château comme ça, et elle aussi fait ses grands aménagements. Elle continue un petit peu le projet de Thomas Boyer et de Catherine Brissonnet. On fait construire un jardin qui est aménagé pour être protégé des crues du Cher, puisque l'idée, c'est de rentabiliser le domaine avec ce jardin. On fait percer une grande allée centrale, on fait construire le pont qui va relier le château à la rive sud du Cher. Donc, tous ces aménagements prennent place sous Diane de Poitiers, on va dire ça comme ça, mais Diane perd le château à la mort du roi Henri II. Vous savez qu'il est mort d'un accident en joutant pendant le tournoi des Tournelles en juin 1559. Enfin, il meurt le 10 juillet, pour être précis, mais il est blessé pendant ce tournoi. Et donc, Diane de Poitiers perd le château au profit de la reine Catherine de Médicis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que entre-temps, Chenonceau est sorti du domaine royal, puisque Diane avait souhaité l'acquérir de façon, en tant que bien privé, si vous voulez. Donc, il était sorti du domaine royal et Catherine de Médicis, pour récupérer Chenonceau, alors puisque Catherine de Médicis, c'est la veuve du roi Henri II, elle va devoir échanger un autre château avec celui de Chenonceau pour pouvoir le récupérer, puisque Diane le possède en tant que bien privé. Il n'est plus parmi les biens de la couronne. Et donc, Catherine de Médicis va devoir donner Chaumont-sur-Loire à Diane de Poitiers, qui va donc récupérer Chaumont-sur-Loire et en échange, qui cédera Chenonceau à Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis, elle aussi, va faire ses grands aménagements. Son jardin aussi, qui est plus à l'italienne, différent de celui de Diane de Poitiers. Les bâtiments, que vous avez les corps de bâtiments sur le domaine, c'est du remaniement ou de la construction par Catherine de Médicis, en tout cas sur demande de Catherine de Médicis. Et l'aménagement des galeries sur le pont de Diane de Poitiers, ça aussi on le doit à la période de Catherine de Médicis ici.
D'accord, merci beaucoup. Il n'y avait pas une histoire comme quoi le chocolat avait sauvé le château de Chenonceau?
Alors, par rapport au chocolat, on peut parler des propriétaires actuels. Effectivement, okay. La famille Meynier est la famille propriétaire du domaine de Chenonceau. Alors, avant eux, il y a eu d'autres femmes entre Catherine de Médicis et les Meynier. Je ne sais pas si vous vouliez que j'en parle, mais juste évoquer... Louise de Lorraine, qui a vécu dans le deuil à Chenonceau, belle-fille de Catherine de Médicis. Louise Dupin, qui au XVIIIe siècle va organiser des salons à Chenonceau. C'est une salonnière parisienne. Elle le protégera d'ailleurs de la Révolution, Louise Dupin. On parlera aussi de Marguerite Pelouse, qui va lancer une grande vague de restauration au XIXe siècle. Et donc... Par rapport au chocolat, effectivement, depuis 1913, c'est la famille Meynier qui est propriétaire du château. Alors, les Meynier se lancent au départ dans l'industrie pharmaceutique et le chocolat vient agrémenter certaines de leurs préparations.
Okay.
Pour casser l'amertume de certains médicaments. Et puis après, c'est le chocolat qui fera vraiment leur corps de métier, entre guillemets, en tout cas leur entreprise. Et les Meynier, effectivement, vont protéger le château. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale surtout, puisque pendant la Première Guerre mondiale, le château, lui, est transformé en hôpital militaire. Mmh. Donc, on est plus sur une participation à l'effort de guerre. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, le château va être protégé par les Meynier. On est sur la ligne de démarcation qui est matérialisée par le Cher directement. Donc, côté nord du château, vous étiez en zone sous occupation allemande. Et côté sud, rive sud, vous étiez sous le régime de Vichy, tout simplement. Et donc... Les Meynier, avec le concours surtout de leur régisseur, Monsieur Bauger, vont faire passer certaines personnes par la galerie. Effectivement, le château a subi quelques dégâts suite à des bombardements au moment de l'arrivée des Allemands, mais il a été préservé tout au long de la guerre, en partie grâce aux Meynier, aussi à leurs régisseurs qui ont su apaiser les tensions qu'il pouvait y avoir avec les troupes allemandes.
D'accord, merci beaucoup. Et pour finir, vous nous avez parlé de la galerie, donc la galerie sur le Cher. Quelle est l'importance de cette pièce ?
Alors aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est la pièce iconique du château. Vous êtes sur l'eau, il y a toute une symbolique aussi autour de cette galerie, que ce soit à travers les fêtes du XVIe siècle, mais aussi, comme on l'a dit, le passage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça regroupe beaucoup d'époques diverses et variées, cette galerie. Et aujourd'hui, elle revêt un peu une symbolique d'image, tout simplement. C'est aussi le théâtre des décors de Noël, un des théâtres les plus importants, en tout cas pour les décorations de Noël. C'est un endroit que les visiteurs attendent beaucoup. Quand on est sur une scénographie de Noël, tout est très beau, mais il y a cette petite apothéose qui vient se placer dans la galerie. C'est vraiment un lieu que les visiteurs attendent en général.
On en sait déjà plus sur le château de Chenonceau et son histoire. Avant de parler de l'événement de Noël au Pays des Châteaux, une pause musicale avec un artiste de Tours nommé TZK Musique. Comment ne pas parler d'amour quand on parle de fleurs? C'est le thème de sa chanson « Seconde ». On l'écoute tout de suite.
Don't give up on me, yeah.
Je fais pas de bilan à ce stade, entre nous l'alchimie est stable. Pas nos petits cœurs mais bon, pose-nous une seconde. Ça fait une seconde. Les suivantes, je veux toutes les passer avec toi. Avec toi, avec toi. Toutes les passer avec toi. Toi, toi. Pour toi, je mets mon ego de côté. Le mauvais chemin qu'on a pris, c'est le plus beau des tours. Depuis le premier pas, je regarde plus derrière moi. Les salles d'histoire, enfin je m'en sors. Direction le paradis, serre de pas d'ici, on est ensemble et y'a personne autour. J'ai mis 10 ans à le trouver, ce sentiment de plénitude quand autour de moi c'était le chaos, focus dans les études quand je me sentais bien pour la première fois. T'es apparu à Paris, j'y croyais pas, cœur cogné comme en plein sparring. Y'a pas de bon ou de mauvais, juste des gens qui font de leur mieux. Regarde-nous aujourd'hui, je crois qu'on réussit à rendre fiers nos vieux. Ça se voit dans leurs yeux, la joie dans les nôtres aussi. Et quand je te regarde, j'y vois l'alchimie. J'y vois l'alchimie. Et quand je te regarde, j'y vois l'alchimie. J'y vois l'alchimie. Je fais pas de bilan à ce stade. Entre l'alchimie est stable. Pas nos petits cœurs, mais bon, pose-nous une seconde. Ça fait une seconde. Les suivantes, je veux toutes les passer avec toi. Avec toi, avec toi. Passer avec toi, avec toi, avec toi. Tout est passé avec toi. Et y'a personne autour.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et vous venez d'écouter Seconde. Nous sommes en compagnie de Jean-François Boucher, scénographe floral au château de Chenonceau. Dans cette deuxième partie, nous allons entrer dans l'univers de l'événement Noël au Pays des Châteaux qui dure du 19 novembre au 4 janvier 2026. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ?
Alors, Noël au Pays des Châteaux, c'est une institution maintenant en Indre-et-Loire. Ce sont 7 châteaux. Alors, cette année, il n'y en a que 6, mais 6 châteaux un petit peu dispersés partout en Indre-et-Loire qui a chacun un thème bien distinct. Nous, c'est les fleurs, puisque l'atelier floral existe depuis plus de 35 ans. Il y en a d'autres, c'est la gourmandise, les lumières. Enfin, il y a chacun à son thème. Et après, nous, en fait, en ce qui nous concerne plus particulièrement, cette année, on a fait une décoration avec un thème qui s'appelle Grand Nord et on a décliné tout ça. Alors, bien sûr, il y a le Grand Nord, le froid, la neige, la glace, les flocons, etc. Mais il y a aussi dans certaines pièces un clin d'œil au travail des fleuristes du nord de l'Europe, comme en Suède et en Norvège, où ils ont un rapport au végétal et au naturel qui n'est pas le même que le nôtre. Donc c'est pour ça, dans certaines pièces, il n'y a pas de neige, mais c'est un petit clin d'œil au pays nordique.
On peut retrouver peut-être des plantes nordiques ?
Alors, il y a certaines variétés de sapins gris, mais c'est plus en fait dans la conception des structures où dans le Grand Nord, on a, enfin dans l'art floral nordique, on utilise très peu de choses. Mais à outrance, donc on a des pyramides de lichen avec des branches de lichen. Il y a toujours un thème récurrent. Et au niveau du fleurissement, on utilise très peu de variétés de fleurs différentes, mais toutes sont lisibles, toutes sont bien mises en valeur. Donc c'est ça le côté art floral nordique.
Et comment se passe la décision des choix des thèmes floraux ? Est-ce que c'est une décision entre vous ou plutôt la direction du château ?
Alors, pour la définition du thème, donc en général, on voit ça en janvier d'avant, du coup, pour se préparer, pour moi, je puisse collecter des informations et puis de la matière aussi. Mais on définit avec notre service communication et bien sûr avec notre administration.
Et du coup, vous utilisez des éléments naturels du parc du château ?
Oui, parce que je suis très attaché au potager des fleurs. En fait, on a 1,8 hectare qui est consacré à la culture des fleurs, donc d'avoir vraiment notre propre jardin de cueillette. Mais c'est vrai qu'à cette époque de l'année, au niveau des fleurs, toutes sont achetées. En revanche, quand on regarde bien, quand on détaille bien nos structures de Noël, on a récupéré plein d'éléments tout au long de l'année dans le jardin, dans le parc, sur nos murs. Je pense chez Gabriel Destrée, il y a une immense glycine qui fait plus de 4 mètres de long. Celle-ci, on l'a prévue cet été parce qu'en fait, elle allait être coupée parce qu'elle était morte. Donc, on récupère. Je pense aussi à certains altéas. Ce sont des arbres qui étaient dans le jardin de Catherine, de Diane de Poitiers, pardon, que l'on a gardé, que l'on a collecté parce qu'ils ont un système de ramification magnifique et c'est des vraies sculptures de la nature. Je pense aux graminées aussi, qu'on a dans le cabinet des estampes, aux branches de tilleul, enfin aux fleurs de tilleul que l'on a gardées depuis cet été, qu'on a fait sécher. Il y a aussi dans la chapelle une coupole d'allium du potager. Alors bien sûr, c'est sec, on les a bombés, mais tout ça, c'est des choses collectées tout au long de l'année et des choses qui ont vécu à Chenonceau.
Merci beaucoup. Et est-ce que les jardins sont également mis en lumière pour Noël ?
Alors, on a, c'est vrai qu'on n'est pas un château qui ouvre très tard ses portes. Donc, bien sûr, la grande allée de Dif est illuminée. La façade du château, la façade du bâtiment des dômes est illuminée. Mais on y réfléchit parce que ça nécessite aussi après d'ouvrir le château bien plus tard parce que les illuminations, c'est joli de nuit. Donc, on a une petite partie illuminée, mais nous travaillons à ce que ça progresse d'année en année.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une pièce du château qui est plus difficile à fleurir que les autres, par les courants d'air, par exemple, la lumière ou...
Alors, c'est pas trop par les courants d'air, parce que de toute façon, tout était fermé en ce moment, mais des fois, il y a des pièces qui sont plus marquées en couleur. Alors, c'est pas plus difficile, par exemple, je pense au salon Louis XIV, mais c'est très rouge et or, donc ce serait difficile de mettre du bleu ou du jaune criard dedans. Mmh. Donc, il y a des pièces, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui nous entoure. Mais après, rien n'est difficile puisqu'on a un large panel de fleurs et de couleurs différentes. Enfin, la nature nous offre tellement de possibilités que tout est faisable.
Merci beaucoup. Alors, le 19 et le 26 décembre ainsi que le 2 janvier se dérouleront des masterclass d'art floral. Revenant sur la composition florale des fêtes de fin d'année, est-ce que c'est vous qui allez présenter les masterclass et si oui, qu'est-ce qu'il y aura dedans ?
Alors, les masterclass, c'est une initiation à l'art floral. Alors, il y a bien sûr des personnes qui font de l'art floral dans leur commune ou dans des clubs, donc on a un public averti. Mais j'insiste sur le fait que c'est ouvert à tout le monde. Et on parle bien sûr de fleurs. Je parle de mon quotidien, du quotidien de l'équipe. Et j'explique comment poussent les fleurs aussi. Alors bien sûr brièvement, parce qu'il nous faudrait des jours et des jours. Mais surtout en point d'orgue, je donne quelques conseils de composition, de l'art de la composition, Et donc les personnes effectuent un bouquet ou une composition et elles repartent avec, bien sûr. Mais moi, la particularité, c'est que on a un large panel de fleurs et je laisse s'exprimer les sensibilités. Ce qui fait que quand on a 15 personnes, on a, avec les mêmes conseils de départ, 15 expressions différentes. Moi, ce qui m'importe, c'est le côté technique et tenu de la composition. La composition qui est faite, ça appartient à chacun. Et j'ai l'habitude de dire que quand on va dans un musée, on va pas tous s'arrêter devant les mêmes tableaux parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes rapports aux couleurs. Donc, chacun crée quelque chose suivant son âme, quoi.
Est-ce que vous pensez que les fleurs peuvent retracer l'histoire, on va dire, ou raconter une histoire ?
Alors, est-ce que les fleurs peuvent raconter ? Alors, oui, les fleurs peuvent raconter une histoire. Mmh. Elles peuvent provoquer des émotions, puisque de toute façon, les fleurs, accompagnent tous les moments de la vie d'une famille. Donc, oui, elles racontent des histoires. Après, pour le côté là historique, parce qu'on me pose souvent la question, mais en fait l'art floral c'est un art assez nouveau. On a quelques prémices à la Renaissance, mais à la Renaissance par exemple on mettait le lard du banquet en vedette, mais pas trop la fleur. On mettait les gibiers, les feuillages, mais c'était juste en petite touche. L'art floral liturgique commence au XVIIe siècle, c'est les premiers traces, mais on est sur une à l'échelle de notre histoire, on est sur du très 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 récent au niveau de l'art de la composition florale.
Merci beaucoup. Comment l'héritage des femmes qui ont influencé le château de Chenonceau influence-t-il aujourd'hui la décoration du château avec les fleurs ?
Alors, c'est un château de femmes, vous l'avez dit. Il est même surnommé le château des dames. C'est vrai que l'art de la composition florale, l'art du bouquet, est souvent lié au public féminin. Mais je ne sais pas si ça influence réellement. Après, on a fait il y a quelques années un Noël Médicis et je m'étais attaché au symbole de Catherine de Médicis. Et du coup, on avait mis, parce que elle était très gourmande, elle adorait les artichauts et il m'est arrivé de faire par exemple des pyramides d'artichauts en hommage à Catherine de Médicis, mais après le public ça le comprend pas ou le voit pas forcément parce que c'est un petit fil que l'on tire quoi. Mais je pense que dans une maison, pour rapporter ça au quotidien dans nos intérieurs, c'est vrai que la petite touche de décoration, un bouquet, quelques fleurs dans un vase, c'est vrai que c'est souvent une petite touche plus féminine.
Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous, pour revenir un peu à Noël au Pays des Châteaux, à quelle date commencez-vous l'installation des fleurs ?
C'est en plusieurs temps. On installe à partir du 10 novembre. Et la dernière semaine est consacrée uniquement au fleurissement parce qu'on met des fleurs fraîches dans toutes nos structures. C'est la particularité de Chenonceau d'ailleurs. Donc, la dernière semaine est exclusivement réservée au fleurissement. Mais d'ailleurs, ces fleurs sont changées après tous les 10-12 jours suivant leur maturité. Parce que le visiteur doit voir la même chose du 1er décembre au 1er janvier. Donc, avec mon équipe, on s'attelle à rechanger, mais à l'identique. Hein, c'est important parce que oui, la durée de vie des fleurs, c'est ça, c'est une semaine. En revanche, donc, tout ce qui est installation... on commence, oui, début novembre, mais par contre, on y travaille depuis mi-septembre, octobre aussi beaucoup, avec une accélération parce qu'on a des écoles de fleuristes, des jeunes fleuristes en herbe qui viennent nous prêter main forte et on leur prépare des petits ateliers et ils nous construisent nos... Alors, on fait les structures, mais ils nous les habillent, ils nous les parent. Et donc, alors, c'est un travail assez ingrat. ingrat, mais c'est un travail essentiel. Le travail de ces jeunes est essentiel. En plus, c'est chouette pour eux parce que c'est une immersion dans un lieu qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Ça reste de l'événementiel, donc c'est une partie de leur apprentissage qui est abordée, donc c'est important aussi. Mais d'ailleurs, je suis très attaché à la transmission, donc c'est très bien. Mais donc du coup on y travaille pendant un mois à fond, mais on y travaille un peu aussi toute l'année parce que on recueille aussi des éléments toute l'année, donc Noël nous prend presque du temps à l'année.
Et est-ce qu'il y a d'autres artisans qui travaillent avec vous, qui vous aident par exemple pour les décors
Alors, je fais intervenir des artisans. En revanche, c'est moi qui décide des choses, en fait. Non, mais parce que moi, j'ai quelque chose en général dans la tête, donc je veux pas. En fait, moi, j'exprime mon idée et l'artisan, après, va l'illustrer comment il l'a compris et on tombe d'accord. Hein. Mais par exemple, je pense à l'année dernière, on avait fait des gros nounours en bonbons avec le conservatoire de la confiserie d'Amboise. Cette année, il nous a fait des pingouins en sucre et en chocolat, donc là aussi à Amboise. J'ai travaillé aussi avec une sculptrice animalière, Johanna Hare, qui travaille le raku. Donc on a une famille manchot dans les cuisines. Mais tous les ans, oui, on fait intervenir un ou deux artisans en plus, quoi. Puis moi j'aime bien, ça lie les savoir-faire, donc c'est très bien.
Et du coup, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est par instinct? Est-ce que vous avez des plans? Vous faites des croquis?
Alors, je travaille pas par instinct. Enfin, l'instinct vient toujours un petit peu. Donc, déjà, rien ne s'invente. Hein. Tout émane d'un imaginaire, on est d'accord, mais après tout ça se travaille. Mais l'instinct, en fait, ça vient en ponctuation pour trouver une petite fleur ou amener un végétal un peu étonnant en dernière minute. Mais l'art floral, c'est des règles, c'est des choses bien établies et on peut pas se permettre de partir dans tous les sens. Donc il faut une ligne directrice, une idée directrice, et après l'imprévu arrive toujours. Donc surtout quand on travaille avec du frais et du vivant, donc il faut laisser une petite part seulement à l'instinct, parce que moi je crois pas trop au talent, je crois surtout au travail. Donc je pense qu'il faut faire suivant les bases, en fait.
Merci beaucoup pour cette présentation. On va faire une courte pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. On écoute tout de suite le titre « La lavande » de la chanteuse Pomme.
Ta peau n'est pas étanche, elle coule de désir, de trop longues absences et d'envie tu soupires. Si je m'affaiblis, que je ne tiens plus debout, allonge mon corps ici, tout en haut du ventoux, et couvre-moi de la vente et de sel si tu pleures, avant les neiges de décembre, avant que ne fanent les fleurs. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Ta peau toujours si blanche, au soleil va noircir les fruits sur cette branche. Au soleil vont mûrir et je m'affaiblis. Oh, je ne tiens plus debout. Allonge mon corps ici, tout en haut du ventoux. Écoute-moi de la vente et de celle si tu pleures. Avant les neiges de décembre, avant que ne fanent les fleurs, je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Ma peau n'est pas si jeune, elle connaît les adieux, et sous un ciel d'automne, je ferme enfin les yeux, et je m'affaiblis, oh je ne tiens plus debout, alors laisse-moi ici. Tout en haut du ventoux, écoute-moi de l'avant et de celle si tu pleures. Avant les neiges de décembre, avant que ne fanent les fleurs. Mais si je meurs maintenant, je n'aurai jamais 20 ans. Les fleurs ne meurent pas vraiment, elles renaissent au printemps.
C'était La Lavande de Pomme. Nous sommes toujours en direct du château de Chenonceau avec l'artiste floral Jean-François Boucher sur le 99.5 FM.
Vous parliez tout à l'heure de l'importance pour vous de la transmission. Comment est-ce que vous transmettez votre savoir aux apprentis qui travaillent avec vous ?
Comment je le transmets? Alors déjà, moi j'ai appris avec les règles de des règles du métier, des règles assez fermes et je pense que dans tout métier, avant d'être un artiste, il faut cultiver, travailler et faut beaucoup travailler. Et après, l'art de la composition, l'art du bouquet vient de lui-même et devient inné. Mais moi, je trouve que parfois on oublie un peu les rouages et les techniques simples, les techniques de base. Moi, je pense qu'il faut bien maîtriser toutes les formes simples de l'art floral. Sont des formes géométriques, donc faut bien les maîtriser. Parce qu'après on les décline et il y a plusieurs dans une forme ronde, on peut travailler de mille façons différentes. On peut le travailler en structure, on peut le travailler de façon romantique, on peut le travailler de façon champêtre. Il y a plein de déclinaisons possibles. Donc moi je pars du principe où il faut bien maîtriser les bases et après on se promène, quoi. C'est comme un sportif de haut niveau. Un type qui va gagner le 100 mètres, il s'est avalé des kilomètres avant de gagner le 100 mètres. Et là, c'est exactement pareil. Il s'est plein d'efforts, plein de répétitions. Et ce travail collecté fera qu'à un moment ou un autre, l'apprenti, l'apprenant aura son examen et gagnera un concours, etc.
On dit que les fleurs ont un langage. Quel message Chenonceau envoie-t-il au monde ?
Je pense que cette année, on a une édition qui, j'espère, est réussie parce que on a beaucoup de retours dans ce sens-là. Et là, c'est plus les visiteurs qui le disent. Cette année, on a un côté féerie, en fait. Et alors, je ne sais pas si c'est dû par le côté la blancheur, la candeur, et puis le fil conducteur dans toutes les pièces, mais on a beaucoup de retours dans ce sens-là. Et il y a aussi, alors ça c'est plus moi, mais personne, le côté froid, moi quand j'étais enfant en Touraine, parce que je suis d'ici, j'ai connu des hivers très froids, des hivers où il y avait de la neige, où la Loire était prise, le Cher était pris, donc c'est un petit clin d'œil aussi au climat qui change. Alors attention, c'est pas une prise de position, hein, c'est juste un constat. Et donc il faut être vigilant, et si on peut faire des petits efforts chacun de notre côté, c'est bien de le faire en fait.
Merci beaucoup. Alors est-ce que vous avez des événements sur lesquels vous aimeriez parler, des événements qui arrivent ou qui sont passés?
Les événements, je vais dire, les semaines déroulent tellement vite, mais c'est vrai que déjà notre quotidien à l'atelier nous prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que sur le site internet, vous pouvez retrouver les masterclass que l'on va faire. On va lancer ça au printemps maintenant, parce que celles qui de Noël, je pense, sont complètes. Mais j'aime bien parler des masterclass, j'aime bien partager un petit morceau de notre métier et c'est vrai que après on fête Pâques au château, on fait des bouquets de printemps, on célèbre le 1er mai aussi, mais après on va avoir aussi des événements certainement, mais alors ça c'est plus dans le cadre privé, on va avoir des écoles d'art floral qui viennent de Chine et de Corée qui viennent apprendre le métier à Chenonceau, mais ça c'est dans le cadre plus restreint. Mais on est pas mal occupé.
Il me semble que vous avez des ateliers rencontres aussi peut-être.
Alors, des ateliers prévus. On le fait. Alors ça, c'est à la demande des publics, des fois des groupes de personnes, qui sont liés au jardin, mais même là, j'avais des gens qui m'ont connu dans ma ville. Voilà, c'est une rencontre. Alors, soit c'est une petite présentation de l'atelier et de notre quotidien. Il m'arrive aussi de faire la présentation et également une démonstration. Et parfois, alors là, c'est la complète, c'est vraiment la présentation et puis un atelier. On fait beaucoup de séminaires d'entreprise aussi où comme activité proposée, on propose de faire une composition florale. Donc, j'en ai encore eu tout courant décembre. Donc, mais là, c'est plus des demandes vraiment dans le cadre privé. Hein, c'est relativement fréquent.
Très bien. Alors, pour un dernier événement, vous avez aussi les soirées d'été, les promenades nocturnes. Est-ce que l'art floral y joue un rôle ?
Alors, l'art floral n'est pas à proprement dit acteur de la soirée, mais comme il y a une déambulation dans le château par un historien ou une historienne de Chenonceau, les visiteurs découvrent forcément nos compositions puisque elles sont présentes dans toutes les pièces du château. Mais c'est pas vraiment thématique sur les fleurs. La thématique des fleurs, on la reprend à Noël toujours. où les vendredis, les premiers vendredis de décembre, on fait une visite en binôme avec Amélie ou avec Étienne, où on parle à la fois d'histoire et de fleurs. Donc voilà. Mais ça c'est vraiment au moment de, oui, début décembre.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message ou un conseil floral à faire passer à nos auditeurs pour leur propre table de Noël, par exemple?
Déjà, ils peuvent venir à Chenonceau découvrir tout notre travail, parce que c'est ce que me disait une visiteuse il n'y a pas très longtemps. Elle me dit « Ah, bah, c'est chouette parce qu'il y a des choses utilisées de façon très simple et que l'on peut refaire. » Alors. Modestement chez nous, me disait-elle, parce que j'utilise beaucoup de choses de la nature, hein, beaucoup de choses glanées, donc voilà. Mais après, c'est vrai que la filière florale se porte pas extrêmement bien en ce moment, donc c'est vrai que si vous pouvez fleurir vos tables avec juste quelques fleurs et un truc tout simple, parce qu'on parle toujours de centre de table, enfin, où c'est volumineux et du coup ça peut être onéreux, mais on a tous des petites verreries chez soi, même des verres en cristal, des flûtes en cristal. On en met 5-6 au centre de la table. On achète 3-4 fleurs chez le fleuriste, on les détaille et ça peut être un décor très léger et très peu coûteux finalement. Donc voilà ce que je pourrais donner comme idée.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
C'était un grand plaisir.
On plonge maintenant dans un univers bucolique, les lauriers, les petits bouquets d'églantines, avec le titre « Siffler sur la colline » de Joe Dassin. Merci à tous.
Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venaient sa confrère, elle m'a dit c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Je profite de ces 10 dernières minutes pour vous emmener avec moi dans une immersion dans le château de Chenonceau. Nous franchissons une porte en chêne. Le Christ et Saint Thomas nous accueillent. La chapelle est un cocon de blancheur. L'atelier floral a transformé l'hôtel en un paysage polaire. Imaginez des fleurs d'un blanc pur, des cristaux qui pendent des voûtes, qui captent la lumière des vitraux pour la transformer en éclat de banquise. On a presque peur que notre respiration fasse fondre ce décor de givre. On va quitter le recueillement pour entrer chez la favorite d'Henri II. Diane était une femme de pouvoir et de goût. Sa chambre est dominée par cette cheminée sculptée par Jean Goujon. On sent ici que le confort royal s'accommode très bien de cette esthétique polaire. Devant un portrait de Ribalta peignant le Christ, un sapin de Noël blanc et lumineux contraste avec l'obscurité de ce tableau. Nous empruntons maintenant ce petit passage et là, c'est le choc visuel, on ne s'y attend pas, la grande galerie. 60 mètres de long, suspendue au-dessus de l'eau, le sol en damier noir et blanc ressemble à des blocs de glace qui craquent sous nos pas. C'est le thème du Grand Nord, c'est ici que les fleuristes ont été les plus spectaculaires. Une véritable forêt de sapins givrés s'aligne le long des murs blancs, avec la lumière du soleil qui se reflète sur le chêne et entre par ses 17 fenêtres. La galerie scintille de mille feux. On n'est même plus dans un château, on est sur un brise-glace royal. On change totalement d'ambiance. Descendons maintenant les escaliers vers les piles du château. Nous sommes au niveau de la rivière, c'est ici que bat le cœur de Chenonceau. Les cuisines avec leurs boucheries, leurs garde-manger et leurs offices sont d'ordinaire des lieux de travail. À Noël, elles deviennent le refuge. C'est la pièce la plus cosy de notre voyage. Des cuivres brillent sur les murs, sur les grandes tables de bois, on trouve des décors rustiques, des pommes de pin, des écorces de bois brutes, des baies rouges qui apporte une touche de chaleur. On imagine des cuisiniers préparer un festin pour les explorateurs rentrant du froid. Une pièce dédiée au chocolat avec des sculptures et des représentations florales fait écho à l'histoire de Chenonceau. C'est l'étape réconfortante de notre expédition. Au premier étage, nous entrons dans la chambre de César de Vendôme, le fils d'Henri IV. C'est une pièce puissante avec un mobilier massif. Ici, le Noël Grand Nord est plus sauvage. On utilise des matériaux bruts, de la mousse, des branches sombres. C'est une évocation de la taïga, cette forêt boréale impénétrable. On sent la solidité et la rudesse de l'hiver nordique, loin de la délicatesse des fleurs blanches de la chapelle. Juste à côté, la chambre de sa mère, Gabrielle d'Estrée. Elle était la favorite d'Henri IV. Et sa chambre respire la douceur. Le décor de Noël change de texture. On utilise des plumes, du coton, des fleurs au toucher soyeux. Tout évoque la neige fraîchement tombée. Celle dans laquelle on a envie de plonger, c'est une pièce très lumineuse et le thème polaire se fait romantique et protecteur. Un vrai nid douillet au milieu de l'hiver. On grimpe encore. Nous arrivons sur les toits, dans le vestibule qui a un style très marqué, très vertical. Pour Noël, ce vestibule est traité comme une grotte de cristal. Des ornements transparents pendent des hautes voûtes, évoquant des stalactites qui se seraient formées pendant la nuit. C'est le point le plus haut de notre visite, comme si nous avions atteint le sommet d'un iceberg dominant tout le domaine. Nous terminons par la pièce la plus mystérieuse. Louise de Lorraine, la veuve d'Henri III, a transformé sa chambre en un lieu de deuil. Murs noirs, dessins de larmes et de pieux. On pourrait croire que Noël n'y a pas sa place, mais c'est tout le contraire. Pour le Grand Nord, les fleuristes y créent un miracle. Des compositions d'un blanc éclatant jaillissent de l'obscurité. C'est exactement comme une aurore boréale dans la nuit polaire. Un éclat de lumière magnifique au milieu des ténèbres. C'est ici que notre voyage prend tout son sens. Même au cœur de l'hiver le plus rude, la beauté et la vie persistent. Notre expédition touche à sa fin. Nous avons traversé des forêts, longé des banquises et trouvé refuge dans des cuisines chaleureuses. Chenonceau, avec son habit de Noël, nous rappelle que l'histoire n'est pas figée dans les livres. Je croise au même moment Jean-François Boucher qui s'apprête à présenter un atelier floral. Une fois terminé, la nuit commence à tomber et le spectacle des lumières extérieures commence. Je capture l'instant en m'éloignant. La tête remplie de magie de Noël.
I don't want a lot for Christmas. Love is just one thing I need. I don't care about the presents.
beneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.